Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
On est sur une série qui est un peu compliquée, c'est vrai. 6 défaites de suite. Mais la saison dernière, on a déjà traversé des périodes comme ça. On s'en est toujours relevé. Et on va s'en relever encore une fois.
Hello les amis, les mots de Mathieu Bodmer en entame de votre débrief 100% hack. Le directeur sportif des Ciels et Marines a pris la parole cette semaine après la défaite 1-0 à Rennes. Un revers certes, mais un hack valeureux au Roazhon Park, peut-être de bon augure pour la suite. Pour en parler, j'accueille comme chaque semaine Mathieu Billot de Foot Normand, bonjour.
Bonjour Célia, bonjour à tous.
Et c'est sa première dans le débrief, Julien Delastre du Courrier Cauchois, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et pour nous accompagner aujourd'hui, l'un des cadres du vestiaire, connaisseur du foot européen, joueur international hongrois, Loïc Négo est avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
À vos côtés, on reviendra sur ce match donc perdu à Rennes, mais dans des conditions bien différentes que le revers précédent. On se projette aussi vers la suite avec Montpellier ce dimanche, c'est presque un nouveau championnat qui s'ouvre. Et puis on reviendra avec vous Loïc sur votre carrière. C'est parti pour le débrief 100% hack numéro 4.
Frustré et déçu. Déçu pour les joueurs, déçu pour le staff, parce qu'ils ont bien travaillé cette semaine, ils ont fait un match qui était cohérent dans l'ensemble. Oui, techniquement, on doit faire de meilleures choses, de meilleurs choix, être un peu plus tranchant dans la surface adverse. Mais j'ai trouvé un match valeureux, personne n'a triché. Et ça, c'est de bon augure pour la suite.
Personne n'a triché, donc Mathieu Bodmer en posture défensive envers les joueurs, le coach, le staff, malgré cette sixième défaite consécutive vendredi soir à Rennes. Loïc Négo, est-ce que vous, l'équipe, vous ressortez aussi des motifs de satisfaction de ce match, même si quand on perd, j'imagine que c'est parfois difficile.
Oui, c'est clair qu'après une défaite, on n'a pas le sourire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout à jeter sur ce match. Il y a eu de très bonnes choses et c'est ce qu'il faudra aussi garder pour dimanche face à Montpellier.
Vous qui étiez en partie sur le banc pendant la première période notamment, qu'est-ce que vous avez retenu justement en voyant peut-être les autres et vous-même après sur la seconde période?
Non, de la combativité de la part de toute l'équipe, une très bonne première mi-temps. On savait que Rennes aussi avait besoin de points parce qu'ils étaient ils étaient sur une mauvaise série. Donc fallait être d'autant plus attentif dans tous les domaines. Derrière, on perd ce match, mais j'ai envie de dire que c'est de bon augure parce que quand on voit le contenu de ce qu'on a proposé durant ce match, que ce soit défensivement, même avec les opportunités offensives qu'on a pu se créer, il y a du positif.
Il y a presque eu deux matchs, j'ai envie de dire, avant l'ouverture du score de Rennes et après. Avant, vous avez été très solide, mais très bas, pas beaucoup de ballons. Par contre, après, forcément, la physionomie du match veut ça, mais j'ai trouvé un hack beaucoup plus entreprenant. Ça m'a rappelé un petit peu ce qu'on voyait la saison dernière. Et tu faisais référence aux opportunités. Il y en a notamment une, peut-être même la plus dangereuse, qui est signée de ta part dans les arrêts de jeu. Ça joue pas à grand-chose
que ça aille au fond. C'est ça. J'ai reçu un très bon ballon de Manu. Après, je fais l'effort de le maîtriser parce qu'il y a les Rennais qui reviennent à bloc. Et derrière, je suis un peu déséquilibré. Donc, j'ai pas cette force pour justement prendre le ballon comme je le souhaite. Mais oui, comme je l'ai dit, les opportunités, même si statistiquement on reste avec une frappe cadrée sur tout le match, on a vu qu'on voulait aller de l'avant, qu'on voulait aller les perturber dans leur dernier mètre. C'est quelque chose qu'il faudra répéter.
Ouais. Et j'ai presque envie de dire, alors c'est peut-être compliqué forcément parce qu'il y avait aussi la dynamique, vous n'étiez pas forcément peut-être en confiance, mais ça, c'était impossible de le faire dès le coup d'envoi, d'essayer d'aller les bousculer comme vous l'avez fait dans la dernière demi-heure, dès le coup d'envoi, c'était impossible.
Après, la dernière demi-heure, on perd 1-0, donc il faut prendre des risques, un peu plus de risques. On commence le match, on est à 0-0. On est moins bien parce qu'on a on est dans une série où on a un peu la tête à « il faut faire attention ». Donc c'est sûr qu'en début de match, voilà, on va pas se livrer, bêtement et rentrer. Nous, l'objectif, c'était clairement de rentrer au vestiaire sans prendre de but. Et c'est un objectif qui a été atteint. Donc on était content sur ce point de vue-là. Maintenant, voilà, on perd le match. Encore une fois, je le répète, on perd le match, mais il y a beaucoup de positifs.
Julien, un avis aussi sur ce match, un bon visage, de bon augure, en tout cas, c'était l'expression qu'on employait.
Oui, exactement, de bon augure. Moi, je trouve qu'on a retrouvé un peu une âme dans cette équipe, parce que c'est vrai que contre Lyon, on avait l'impression de voir un collectif un peu fracturé, enfin sur le terrain, il n'y avait pas grand-chose qui roulait bien. Et là, franchement, contre Rennes, je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans le vestiaire, j'ai senti une équipe soudée, vraiment, qui défendait en bloc, qui vraiment jouait ensemble. Je sais pas ce que tu penses, toi.
Oui, c'est on voit les mêmes choses. Maintenant, on a aussi, nous, les joueurs, une part de responsabilité. Après le match de Lyon, on a su se dire les choses. On a aussi revu les images entre nous. Et derrière, voilà, on s'est dit qu'il fallait justement mettre un peu plus pour faire mieux, parce que malheureusement on a déçu et on le sait, contre Lyon c'était pas beau à voir.
Si on généralise un peu, pas seulement Lyon, mais le début du championnat, il y a eu aussi un peu Lille. Comment t'expliques que le début de championnat soit aussi compliqué? Alors on a mis en avant le calendrier, vous avez quasiment affronté, à l'exception de Marseille si je ne me trompe pas, mais tous les présumés gros du championnat, donc forcément compliqué. Bon, on a aussi dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de recrues et tout. Comment t'expliques un petit peu ce début de championnat compliqué, en tout cas d'un point de vue du résultat, mais aussi du point de vue du jeu?
Au niveau du jeu, j'ai pas moi personnellement, je vois pas où c'est, entre guillemets, dégueulasse,
D'accord, ok.
excusez-moi pour le terme,
Non, bien sûr.
mais c'est vrai qu'au niveau des résultats, et c'est ce qui compte dans le football, on n'est pas dans ce qu'on voulait, donc on s'est mis à travailler deux fois plus, à revoir ce qui était pas ce qu'on faisait moins bien, et ça revient petit à petit, ça revient. Mais voilà, comme je l'ai dit, il faudra garder justement ce qui a été fait à Rennes, et mettre aussi un peu plus, parce que maintenant les matchs, c'est bien beau de les jouer, mais il faut les gagner.
C'est ça, c'est qui compte, il faut faire tourner le compteur point, quoi.
C'est ça.
On a entendu, hein, le directeur sportif, Mathieu Bodmer, dire que les joueurs ont besoin de soutien, d'être confortés dans leur travail. Il y a le président Roussier qui s'est exprimé aussi dans la presse. Est-ce que c'était important pour vous, pour le groupe, aussi, que voilà, de les entendre? Mathieu Bodmer, c'est assez rare, finalement, qu'il vienne s'exprimer après un match. Je crois que c'était inédit en 2 ans, quoi.
Après un match, oui, peut-être qu'il s'était déjà arrêté, mais en tout cas, oui, ça faisait un petit moment qu'il ne s'était pas exprimé, en tout cas, vis-à-vis des médias.
Non, après, moi, nous, les joueurs, on n'est pas surpris, parce qu'on connaît la personne, on le côtoie au quotidien, et ce soutien, il l'a avec nous tous les jours. Donc là, c'est juste qu'il l'a émis publiquement. Donc, mais c'est quelque chose qui pour moi est normal, j'ai envie de dire, parce que c'est entre guillemets notre protecteur. Et voilà, à nous de justement lui rendre la vie facile.
Ouais, parce qu'il est au quotidien avec vous, il est présent, ça peut être un interlocuteur aussi pour vous, les joueurs, au même titre que le coach ou les membres du staff. En tout cas, on imagine que ça se passe comme ça.
C'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça.
Alors, difficile de l'éviter, peut-être dans ce débrief 100% HAC, on va quand même revenir sur ce qui fâche aussi et ce qui a un peu marqué cette rencontre, la colère froide du staff du HAC à l'encontre de l'arbitrage mené par Monsieur Bata. On va d'abord écouter Mathieu Bodmer.
On n'aura pas opéré la semaine prochaine parce qu'il prend un carton rouge. Au démarrage, il y a deux fautes sur lui. Sur la même action, il y a faute sur Kingsley. Sur l'action 10 minutes avant, il y a faute sur Sabi et puis c'est dans l'autre sens. On se rappelle que cet arbitre nous a validé un but la saison dernière ici. C'était l'arbitre VAR. Peut-être que lui, ça commence à faire beaucoup. Voilà. On va pas se réfugier derrière l'arbitrage. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas toujours dans notre sens. Après, techniquement, on doit faire des choses beaucoup plus justes. On doit avoir encore un peu plus d'envie pour marquer des buts. Mais sur la fin de match, on aurait mérité un petit peu mieux.
Alors on sait que c'est compliqué, hein, de parler de l'arbitrage. On en a déjà parlé aussi après d'autres matchs cette saison, notamment le match de Brest, match de Monaco. Est-ce que vous vous estimez victime, on va dire, de cet arbitrage, Loïc ?
Non, c'est frustrant. Hein. C'est frustrant parce que sur le moment, quand il y a, si on revient sur ce qui s'est passé à Rennes, ce sont des fautes claires. Il n'y a pas de discussion. Après, carton ou pas carton, c'est autre chose, mais il y a faute, faut siffler. Maintenant, les arbitres, oui, ils font un travail très difficile. Il y a des choses à prendre en compte. Mais moi, je pense qu'il faut juger les deux équipes à la même hauteur. Et je ne pense pas que ce soit le cas pour nous depuis le début de saison. Et par rapport à ce que je vous dis là, c'est qu'il y a des faits. Il y a des choses qui n'ont pas été sifflées et qui ont derrière... qui nous ont derrière nous ont mis en danger parce qu'on a soit concédé ou soit même pris des buts. Donc voilà, c'est quelque chose, mais je pense que le corps arbitral il travaille pour justement qu'il n'y ait plus de choses comme ça à répétition.
Julien Mathieu, est-ce que vous pensez que le staff a raison de se faire entendre de ce point de vue-là, peut-être, Julien ?
Oui, je pense faut s'exprimer, parce que c'est vrai qu'en ce début de saison, le Havre n'est clairement pas verni en termes d'arbitrage. Après, oui, c'est sûr, faut pas tout mettre sur la faute des arbitres, quoi, aussi. C'est le jeu compte beaucoup aussi.
On sent que les... On est toujours sur la corde raide hein, quand on parle de ça, Mathieu.
Non, mais après, je pense que chacun doit être dans son rôle. Donc, si le président Roussier le fait, je pense qu'il est dans son rôle. Si Mathieu Bonnemer le fait, il est dans son rôle parce qu'il est dirigeant du club. Didier Digard, forcément, c'est toujours le coach, le premier interlocuteur aussi des médias. Donc, voilà, il s'est aussi exprimé. Après, pour les joueurs, bon, là, forcément, on pose la question à Loïc, mais il ne faut pas que ça rentre trop dans la tête et que ça devienne un... Faut pas se mettre un adversaire un petit peu d'entrée. C'est-à-dire le match, il faut l'aborder. Il faut se dire que l'arbitre va faire son taf de manière équitable. Après, c'est vrai que, par exemple, pour préparer l'émission, nos confrères de Rennes font aussi une émission qui débriefe le match. Et donc, ils revenaient un petit peu. Et donc, il y a une situation litigieuse dans la surface avec Timothée Pembélé, avec une obstruction d'Adrien Truffert. Et donc, ils étaient 4-5 autour de la table. Et donc, à l'unanimité, eux, ils disaient, bah, y a pénalty pour Rennes, pénalty pour le Havre, du coup. Et donc, c'est pourtant, ils suivent Rennes, donc on pourrait presque leur dire qu'ils pourraient être cléments avec l'équipe, mais non. Donc, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a quelques faits, et ce match-là, et ça génère de la frustration, et on voit à quoi ça aboutit, malheureusement, l'expulsion de Chris Opéry. Hein, bon, c'est toujours facile de dire qu'il faut se maîtriser, mais quand on est dans le match, c'est pas toujours évident. Et malheureusement, bah, Chris Opéry, bah, il sera pas là ce week-end contre Montpellier, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, c'est juste ça, faut... Que les dirigeants le fassent, moi je pense qu'ils sont pleinement dans leur rôle et c'est normal parce qu'ils peuvent protéger le club, ils doivent protéger leur groupe et comme Loïc l'a dit, Mathieu Bonnemer c'est un peu le protecteur. Et les joueurs, et j'ai trouvé notamment ceux qui sont arrêtés en zone mixte, que ce soit André Ayou ou Yacine Keshta, j'ai trouvé que justement ils n'étaient pas tombés dans ce piège-là de tout mettre un peu sur le dos de l'arbitrage et voilà, on sait que ça peut être un faux combat. Donc là-dessus, je trouve que pour l'instant, les rôles sont plutôt bien répartis du côté du HAC. Les joueurs, il faut qu'ils se concentrent sur ce qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire leurs prestations, et qu'ils laissent éventuellement le staff, le coach et les dirigeants mener ce combat-là s'ils estiment qu'ils doivent être menés.
On sait qu'on est beaucoup plus attendu. C'est le nerf de la guerre de réussir à être fort dans ce championnat. Si on veut mieux figurer, il faut réussir à prendre des points dans les matchs là où on n'en a pas pris. Mais si on veut maintenir l'état d'esprit ou la confiance du groupe, c'est sûr que c'est sur ces matchs-là où il ne faut pas perdre. Donc c'est toujours plus délicat quand ils arrivent après une si grosse série de matchs. Mais on est prêt et je suis vraiment confiant en mes joueurs avec ce que j'ai vu ce soir. Je suis vraiment confiant.
Vous venez d'entendre Didier Digard dans le débrief 100% HAC. L'entraîneur havrais qui se projette donc après Rennes vers la suite. C'est Montpellier dimanche, lanterne rouge avec 4 petits points en 9 journées, une seule victoire. Et dans l'Hérault, une stratégie qui est tout autre qu'au Havre. Le coach Michel Derzakarian qui a été remercié avant la 9e journée, remplacé par Jean-Louis Gasset. Et pour l'instant, eh bien, ça n'a pas été la recette miracle puisque Montpellier a perdu 3-0 à domicile contre Toulouse. On imagine quand même effectivement que c'est peut-être un nouveau championnat qui démarre, Loïc Négo. Est-ce que c'est l'impression que vous avez, en tout cas au sein du groupe ? Est-ce que c'est le match qu'il faut gagner ?
C'est un match de championnat. On reçoit une équipe en difficulté. Maintenant, on l'est aussi. Mais... veut être prêt pour ce match-là. Et c'est quelque chose qu'on tient à cœur de la part de tout le groupe, parce que voilà, on veut renouer avec les 3 points, avec la victoire devant nos supporters. Après un bon match à Rennes, ce serait bien de réitérer ça à domicile. Je pense que on pourra aborder plus sereinement la venue de Reims si on venait à gagner dimanche face à Montpellier.
Ouais, il faut se servir des ingrédients positifs de Rennes pour construire ce match-là. La compacité du bloc, la défense, même s'il y a eu un but encaissé, mais plus sur un exploit personnel. La défense est solide, parce qu'au final, Rennes ne s'est pas procuré énormément d'occasions sur le match. Et puis on a évoqué cette fameuse, dans la dernière demi-heure, cet allant, j'ai envie de dire, un petit peu offensif. C'est ça les ingrédients que doit mettre le HAC dimanche contre Montpellier.
Oui, oui, je dirais même plus. Aborder le match en tout de suite voulant aller marquer, parce qu'on a à domicile, on sait qu'il y aura... Il y aura nos supporters et tout le monde sait au combien ils sont importants pour nous. Maintenant, voilà, il y aura un Montpellier aussi qui ne se laissera pas faire. Donc il faudra être intelligent dans les deux sens.
Justement, est-ce que vous avez un peu de pression à l'arrivée des quatre matchs qui se profilent? On sait que sur les six dernières défaites, il y avait quand même 4 adversaires européens. Là, on va arriver sur des adversaires un peu plus à la portée du HAC, avec qui le maintien va se jouer. Est-ce que dans le groupe, on ressent un peu cette électricité?
Non, il y a de la pression, mais c'est de la bonne pression. C'est de la bonne pression. On rentre là dans une phase où, comme vous dites, il y aura des matchs à notre portée, si je peux le dire comme ça. Mais voilà, tous les matchs restent difficiles. Ça reste un match de Ligue 1. Il n'y a pas de match facile en Ligue 1. Maintenant, ce sera à nous de se mettre au niveau pour gagner, tout simplement.
Est-ce que tu partages ce point de vue? On présente un petit peu la lutte pour le maintien comme une lutte à 5-6 équipes dans lesquelles on retrouve le HAC et Montpellier. Est-ce que tu le vois ainsi, cette lutte pour le maintien? Est-ce qu'elle va se résumer à ces 5-6 équipes?
Nous, ce qu'on veut, c'est de prendre le plus de points possible. Parler de maintien ou d'Europe, malheureusement, c'est trop tôt pour l'aborder. Je vous répondrai dans 5 mois, on verra, mais là pour le moment, ce qu'on veut, c'est prendre des points.
Faire tourner le contrepoint, d'accord. Donc j'ai bien retenu, du coup, tu proposes de revenir au podcast dans 4-5 mois, du coup, si j'ai bien
je reviendrai.
donc je reviens juste sérieusement, du coup, ouais, là, vous, si je comprends bien, pas trop focus sur le classement, pas trop focus non plus sur les écarts de points, c'est... Faut faire tourner le compteur point du HAC, c'est ça qui compte
ça,
aujourd'hui.
C'est ça. Quand on reste sur plusieurs matchs sans prendre de points, même un point, tu prends. Donc oui, c'est prendre des points.
Vous disiez il faudra attaquer d'entrée, marquer des buts. C'est un style de jeu. On sait que Didier Digard dit voilà, il faut miser principalement sur l'offensif. C'est quelque chose qui vous plaît plutôt, a priori?
Oui, oui, oui. C'est,
à titre perso,
c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien me projeter vers l'avant. Ce dimanche, Montpellier marquait des buts. Je le dis, mais c'est une phrase. Voilà, pour gagner, il faut marquer. Donc, ce qu'on veut et ce qu'on se donnera les moyens pour le faire. Maintenant, voilà, le plus important, ça reste les 3 points.
Ouais, peu importe la.
Ça reste les 3 points.
J'ai envie de dire presque peu importe la manière, ouais. Même si c'est pas peut-être pas, ça se dit peut-être pas, mais c'est ouais. S'il y a 1-0 dimanche sous les coups de 19h pour laisser les Marines, tout le monde sera content de votre côté. Ouais. Est-ce que toi, comme d'autres joueurs, t'as présenté comme un cadre du vestiaire, t'es un joueur des plus expérimentés en termes de CV, la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, les compétitions internationales, est-ce que vous tenez un rôle un petit peu particulier? Ça reste un groupe jeune, malgré tout, beaucoup de jeunes joueurs, première, deuxième saison en première division. Est-ce que vous tenez un rôle particulier? Là, il n'y a pas beaucoup de résultats. Pas mal de critiques.
On se parle tous. C'est un vestiaire qui vit très très bien. Hormis le fait que Que oui, on traverse une période difficile, mais c'est là où justement qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment soudé parce que personne ne s'éparpille, tout le monde reste concerné et c'est le plus important. Et même au niveau du staff, que ce soit au niveau du médical ou des prépas, du staff professionnel, tout le monde reste concerné, tout le monde reste professionnel. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous donne envie d'avancer, de justement franchir les étapes pour recommencer à prendre des points, parce que c'est le plus important aujourd'hui.
Ça peut faire la différence, l'unité du groupe, l'unité du club.
Ça fait des
Ça fait des
différences, tout le temps,
différences.
oui.
Ouais.
Oui,
Toi, avec ton expérience, tu dis que ça fait des
oui,
différences.
oui. L'unité de tout un groupe, tout un club, c'est... Ça génère justement la chance, comme on dit.
On interroge un peu tous les Havrais qu'on en a la chance d'interroger justement sur le retour d'André Ayew. Dans ce sens-là, dans l'unité du club, on sait que c'est un cadre, on sait que c'est quelqu'un qui a aussi un discours assez fédérateur. C'est forcément un plus dans cette lutte pour le maintien. Je parle même pas du niveau sportif, hein, qui forcément il va vous apporter un plus,
Oui.
mais dans ce rôle-là, en fait.
Oui, parce que ça reste quand même un visage familier, il est connu, je pense que tous les supporters, tous les Célémans le connaissent très bien, mais ils sont contents de son retour, justement, comme nous. Et non, André, je pense qu'il est aussi, qui sera mettre sa petite part pour justement faire que le hack prenne le plus de points possible.
Et tu parles d'unité. L'autre jour, on t'a vu à la fin du match contre Lyon aller discuter avec les supporters dans le COP. C'est important pour toi d'aller discuter avec eux dans des moments difficiles comme
Oui,
ça?
bah oui, après c'est pas méchant, c'est pas méchant. Voilà, on vient de faire un match où on prend 4 buts. Ils ont pas arrêté de chanter, ils ont continué à nous pousser. Derrière, ils ont envie de se relâcher en nous disant ce qu'ils pensent. Donc voilà, faut faire face, faut assumer parfois quand voilà les choses se passent mal. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, demain, on gagne contre Montpellier, ce seront aussi les premiers à nous féliciter et à être contents. Donc c'est dans les deux sens.
Et sans trop rentrer dans les détails, on pourrait savoir ce qui s'est dit un peu ce jour-là.
Bon, je me rappelle même plus. C'est juste que voilà, ils nous ont dit de pas lâcher. Pas lâcher, c'est quelque chose qu'on fera jamais. Donc voilà, ils avaient juste envie de nous faire part de ce qu'ils avaient après cette défaite. Et je trouve ça normal qu'un supporter soit déçu que son équipe perd. J'aurais trouvé ça bizarre si il ne se serait rien passé et que personne serait déçu après deux défaites d'affilée, je crois, à domicile, avec
Ouais, le
Lille
pire, c'est
et
l'indifférence, presque.
c'est ça, Lille
Que la
et
situation rende
Lyon.
indifférents les gens, du coup. Et du coup, c'est pas le cas,
Voilà.
force est de constater. Ouais. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, hein, tout le monde sait combien les supporters sont importants pour vous. Et là, forcément, les matchs qui arrivent, ils seront d'autant plus importants. Dimanche, il faut que le stade soit le plus plein possible, mais j'ai envie de dire surtout qu'il fasse le plus de bruit, le plus d'encouragement possible. Il faut
Bon,
vraiment que ce soit un
après,
12e homme pour vous.
ouais, mais après, c'est compliqué à dire parce que tous les week-ends, quand on joue à domicile, le bruit, il y en a énormément. Donc,
Ouais, y compris à Rennes.
ouais, à Rennes, ouais. Au
y compris à
parquage.
Rennes,
Ouais, les
effectivement.
supporters havrais, visiblement, ils aiment bien ce déplacement. Déjà l'année dernière,
Ouais.
au mois d'août, et là, ils
Ouais, ils
étaient
ont fait du bruit, ouais.
mille, environ 1 000, hein,
Ouais.
voilà, et ils ont fait énormément de bruit. Voilà, on avait les supporters la dernière fois avec nous qui disaient qu'il n'y avait rien de mieux que rentrer dans un parquage extérieur et se faire siffler, mais en tout cas, oui, ils ont fait. Enfin, vous les avez entendus, je pense.
Ouais,
Voilà.
exceptionnel. Ouais.
Ouais. Et là, faut que dimanche, ça soit de cet acabit-là, du coup.
Oui, mais je pense que j'en doute pas, ils seront présents.
Botka, most a beadás. Ott van még Nikolic. Nigo felé. Nigo helyzetben. Gól! Gól! Nigo kiegyenlít. Loik Nigo. Bravo Loik. Bravo Lalikám. Lajos. Szép gól volt.
Eh oui, on aura tout entendu dans votre débrief 100%, y compris du hongrois. Donc, super souvenir, on imagine, pour vous, Loïc Négo. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous venez d'entendre, ce qu'on vient d'entendre?
Ouais, c'est un commentateur célèbre sportif hongrois.
Le Thierry Roland hongrois, on peut dire ou le...
Ouais. Entre...
Je suis pas très à la page avec Thierry Roland.
Et ça parlera à tout le monde, c'est ça qui est bien.
Mais ouais, c'est un but. J'avais marqué, j'avais égalisé face à l'Islande en qualification pour l'Euro 2020. C'est un but important qui a fait que voilà, derrière on garde cette espérance pour se qualifier, et derrière on le fait, donc ouais, j'ai grâce à ce but, je rentre dans l'histoire.
Et on est à la 88e minute.
Ouais, c'est
plus.
Ça, je crois que je rentre à la 84e minute.
C'est ça, ouais.
35 minutes plus tôt, c'est derrière ça. Je marque. Donc ouais, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais.
Est-ce que c'est votre plus beau souvenir foot, on va dire, à l'heure actuelle ou pas?
Ouais. C'était vraiment... Après, dommage, parce qu'on était en plein Covid et que le stade était vide.
Ouais, ça se voit sur les images d'ailleurs.
Mais ça reste un souvenir, ouais, qui... Je pense que j'oublierai jamais ce moment.
Parce qu'on l'a dit, donc vous êtes un joueur international hongrois, naturalisé en 2019, si je ne me trompe pas sur la date. Est-ce que ce match-là, il a changé des choses là-bas? On vous a reconnu, enfin, en plus, ou c'était déjà le cas peut-être en tant que champion de Hongrie aussi
Oui, c'était... Il y avait cette reconnaissance, mais après, c'est vrai qu'après ce but-là, ça a explosé, entre guillemets. Et, mais bon, je m'y attendais un peu. Pour être honnête, je m'y attendais un peu. Les supporters hongrois sont très, très, très passionnés. Donc, avec les résultats positifs qu'il y a eu ces dernières années, ça a onflé. Et aujourd'hui, les joueurs qui sont en équipe nationale du pays sont comme des stars, entre guillemets, là-bas en Hongrie.
Ouais, parce qu'on le rappelle, hein, donc c'est deux qualifications pour le championnat d'Europe. Il y a celui-ci, donc du coup qui s'est disputé du coup en 2021 compte tenu du Covid, et celui plus près de nous qui s'est disputé l'été dernier, même si malheureusement tu as eu quelques pépins physiques, je crois que t'étais dans le groupe, mais t'as pas pu pleinement jouer un rôle. En tout cas, ça reste des bonnes performances pour la Hongrie, qui n'avait pas participé à des compétitions internationales depuis très très longtemps avant ces deux qualifications.
C'est ça. On fait les trois derniers Euros. Consécutif,
c'est
donc
ça.
C'est quelque chose d'exceptionnel, notamment sur le dernier où on se qualifie, on sort des poules à la première place devant de grosses nations, dont l'Angleterre, la Serbie. Et, derrière, voilà, c'est un football aussi en Hongrie qui évolue chaque année, et c'est bien pour la suite.
T'es bien placé pour le dire, parce que si tu es naturalisé hongrois, c'est que tu as joué de très nombreuses saisons dans ce pays-là, où tu as participé et tu as gagné de nombreux titres nationaux. Donc, on l'a dit tout à l'heure, participé à des Coupes d'Europe, même la Ligue des Champions, où tu avais aussi marqué, enfin, construit pas mal de souvenirs. Là, tu sens que le football hongrois est revenu au premier plan un petit peu
Au premier plan, je sais pas, mais
juste en dessous.
Il évolue constamment. C'est voilà, il y a plus de talents qui sortent, et aujourd'hui, on peut le voir comme l'équipe vedette hongroise, le Ferencváros FC, qui sont régulièrement en Coupe d'Europe, que ce soit en conférence ou en Europa League.
Qui a affronté Nice, hein, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, voilà, qui a battu Nice d'ailleurs, pas seulement affronté, battu Nice.
Il y a beaucoup de... Voilà, les équipes derrière, bon, il y en a très peu qui les ressemblent, mais ils essaient de s'en rapprocher au maximum.
Ouais, avec des joueurs d'ailleurs qui sont passés par le championnat de France, alors plutôt de Ligue 2, mais quand même, c'est en capacité d'attirer des joueurs de ce calibre-là. On revient un petit peu quand même sur toi. C'est vrai que c'est particulier, hein. T'as de nombreuses sélections en équipe de France jeune. T'as remporté un championnat d'Europe d'ailleurs, U19, hein, c'est ça, avec un certain Antoine Griezmann, pour situer un petit peu la génération. Et d'ailleurs, ça avait lieu championnat d'Europe.
À quand?
En Normandie.
Ouais, ouais.
Voilà, en Normandie. Comme, comme quoi, tout, c'était écrit que tu jouerais en Normandie un jour. Quand tu repenses à cette époque où tu étais formé au FC Nantes, hein, pour ceux qui l'auraient oublié, quand tu repenses à cette époque, qu'est-ce que tu t'évoques? Il y a de la nostalgie, tu te dis c'était des belles années, tu dis.
Ouais, c'était beau, c'était. C'est... Pareil, c'est des souvenirs qui restent. J'étais pas encore. Je jouais pas encore en Ligue 2. Enfin, avec les chez les pros, ouais. Voilà, j'arrive, je suis champion d'Europe. C'est quelque chose qui m'a justement permis de prendre de la force pour l'étape d'au-dessus. Et derrière, quand je vois aussi mes partenaires comme Antoine ou Lacazette, Francis Coquelin aussi qui a éclaté derrière, c'est que voilà, il y avait de la qualité dans ce groupe.
Il y avait une belle
petite
génération.
Ouais, ouais. Vraiment.
En 2010, on l'a pas dit, je crois.
Non, ah oui, pardon, on l'a peut-être pas dit, effectivement. Et oui, ça remonte. Non, c'était en 2014 ce titre-là, non?
Ah oui, bah alors j'ai peut-être mal noté.
Non, 2010 2010. C'est moi qui me
trompe.
Et le temps passe. C'est moi qui me trompe dans les dates. Et donc, le hasard aussi de ton parcours footballistique, c'est que. Avec la Hongrie, tu as affronté la France. Là, donc, c'était en 2021, je ne me trompe pas.
2021,
si, je me trompe pas. C'était pour l'Euro. Bon, forcément, c'est particulier. T'entends la Marseillaise, mais c'est l'hymne de l'autre équipe.
Sentiment partagé.
Pas évident, quand même, j'imagine, à gérer ce match-là.
Ouais,
même si vous avez fait un partout, quand même.
C'est spécial. Ouais, on menait pendant un bon petit moment. Après, on s'est égalisé sur la fin, mais ça reste voilà, l'équipe de France. Se doit d'avoir des résultats, notamment contre des pays moins bien placés qu'elle. C'est ce qui est totalement compréhensible. Mais voilà, on ne les a pas lâchés, on les a bien titillés. Mais derrière, on prend un point, c'est bien, mais ça n'a pas été assez pour nous. Mais ce que je retiens, c'est que oui, j'ai pu affronter mon pays natal, oui. Et avec Griezmann, on a pu échanger un peu. Non, ça reste de bons moments.
Ouais, c'est fou quand même. Donc, ça fait 7 ans après votre titre en U19.
C'est ça.
Vous vous retrouvez au plus haut niveau international, mais du coup, chacun, chacun d'à côté. Du coup.
C'est ça.
Et moi, j'aurais aimé savoir, comme je viens de le dire, t'as joué avec les jeunes, avec l'équipe de France Jeunes, pardon. Ça a été quoi le déclic quand tu as choisi la Hongrie? À quel moment tu t'es dit, voilà, je veux jouer avec l'équipe?
Non, c'est pas venu de moi, c'est eux qui sont venus m'approcher. Mm-hmm. Parce qu'en fait, il y a une année où dans mon club, dans le championnat, la Ligue... donner l'opportunité au club de recevoir une indemnité si elle faisait jouer plus de 50% de Hongrois le week-end. Et dans mon équipe, on avait beaucoup d'étrangers. Et du coup, c'était pas obligatoire. Donc si le club refusait, il recevait pas l'indemnité, mais s'ils acceptaient. Et je pense que c'était un très gros chèque. Donc c'était bien pour justement la préparation, que ce soit le matériel ou c'était bien pour le club.
Une prime à inciter les joueurs, une prime à faire jouer les joueurs locaux, du coup. Ouais.
Oui, c'est ça. Et il manquait un joueur.
Ah, voilà.
Il manquait un joueur et
le joueur.
Et le directeur me vient me voir et me propose d'avoir la double nationalité si ça ne me posait pas de problème, sans perdre la française. Donc pour moi, c'était pas. Et comme je le disais, j'ai été bien accueilli dans ce pays. Hormis la langue, je maîtrisais tout, pratiquement tout là-bas. Ma famille aussi, ils étaient très contents d'être installés là-bas. Donc ça ne m'a pas dérangé. Et derrière, le destin fait que voilà, nous sommes unis pour la vie maintenant.
Ouais. Parce que c'est une chose d'obtenir la double nationalité, mais c'en est une autre d'être appelé en équipe nationale. Du coup, au moment où on te propose d'avoir la nationalité hongroise, il n'est pas question... Enfin, on t'évoque pas la possibilité,
non,
ou si on t'évoque quand même...
On l'évoque, mais...
C'était pas la source de motivation numéro un, du coup.
En rigolant, limite. On l'évoque en
D'accord,
rigolant, limite.
D'accord, sur le ton de la blague.
Mais voilà, sur le ton de la blague, mais... comme on dit, derrière une blague, il y a toujours une petite part de vérité. Et au fil du temps, avec le président de la fédération, il y a une saison où je finis meilleur joueur du championnat. Et c'est la saison où justement, on a deux doigts d'aller en phase de poule de Champions League. En fin de saison, le président me fait la demande directement officielle, à savoir si j'aimerais bien intégrer l'équipe nationale. Et j'ai répondu tout de suite, mais c'est peut-être une ou deux heures après que je me suis posé la question et que je me suis vraiment dit, mais c'est vrai ou j'étais pas trop. Parce que sur le moment, j'étais content, il y avait l'euphorie du titre personnel que je venais de remporter. Derrière, c'est vrai que j'ai un peu cogité à la situation, mais j'ai accepté tout de suite, ça n'a pas été un problème.
Est-ce que vous aviez des craintes, on va dire
Non, parce que je connaissais pratiquement tous les joueurs qu'ils étaient actuellement dans le groupe. Je ne vais pas dire l'effectif parce qu'il y a toujours 2, 3, 4 changements. Même ceux qui jouaient à l'étranger, je voyais un peu qui ils étaient. Et, non, je n'avais pas trop d'appréhension.
Ça apporte quoi pour vous aujourd'hui de toujours faire d'avoir des sélections? Là, il y a la Ligue des Nations en ce moment. C'est quoi? C'est une respiration? C'est de l'ambition en plus?
Non, c'est bien. Ça reste des matchs aussi de très haut niveau. Ça permet aussi de rentrer en Hongrie, de revoir les anciens, les amis, les camarades, les copains. Je rentre en Hongrie toujours très bien accueilli et c'est quelque chose aussi qui fait plaisir.
La langue, c'est mieux ou
Non, la langue, je reste toujours à 20-30% de connaissances. Ça ne ça monte pas plus.
On verra ça après la carrière.
Ouais. <c'est...
rire> toute cette histoire-là de naturalisation, d'intégration à l'équipe nationale, ça pourrait peut-être t'emmener au Graal, j'ai envie de dire, du football. Il y a la Coupe du Monde dans un an et demi maintenant. Elle se déroulera à l'été 2026. États-Unis, Canada, Mexique, on y pense?
En ce moment, c'est pourquoi le pays se bat, entre guillemets. Je dis le pays, mais c'est voilà, toute une nation. La Nations League, c'est une compétition très importante pour nous. Parce que plus on prend de points, mieux ce sera au final.
Ouais, il y a un impact sur la course à la qualification à la Coupe du Monde, c'est ça.
Exactement.
Mieux on est classé en Ligue des Nations, mieux on aura une poule peut-être ou un chapeau facile.
Exactement. Et voilà, oui, ça reste un rêve. Aujourd'hui, ça reste un rêve et voilà, on va se donner les moyens de justement de vivre ce rêve. Qui est de se qualifier pour le championnat du monde.
Ouais, parce que ce rêve commence, enfin peut être réalisé à partir de demain, parce que les qualifications ça commence quand? C'est dès l'année prochaine, au mois de mars, quelque
ouais,
chose
c'est
comme ça.
C'est ça.
Donc c'est à l'échelle d'une carrière, d'une vie, c'est demain.
Ouais, ça arrive très très vite.
Ça arrive très très vite. Ça, là, on parlait aussi un peu de pression avec le Havre. Il y aura peut-être un petit peu de pression aussi avec l'Hongrie. On s'est qualifié trois fois pour un. Pour un championnat d'Europe. La dernière participation de la Coupe du Monde à Hongrie, je ne l'ai pas, mais elle doit...
On est passé, ouais.
Elle doit dater. Elle doit dater. Là, il y aura quand même une pression positive, mais une pression quand même.
Ouais, c'est de la pression, comme j'ai dit, on a toujours. Après, il y en a... Il y a des bonnes pressions, il y a des pressions un peu plus... stressantes, on va dire. Quand tu es dans le stress et que... Mais voilà, en Hongrie, c'est des matchs que tout le monde aborde de la même façon. On veut toujours gagner en tant que footballeur. On veut toujours gagner. Parfois, tu perds. C'est le jeu, faut accepter. Et quand tu perds, faut se remettre dedans et faut retravailler pour justement se donner les moyens de gagner. Et voilà, ainsi de suite. Ça continue. Mais oui, c'est pour revenir au sujet de la Coupe du Monde, c'est un rêve et on va tout faire pour justement le vivre.
Je reviens une toute dernière question. Alors, je reviens en France, à la Genelière. Il y a Abdoulaye Touré qui joue au HAC. Vous êtes pas tous, vous avez 3 ans d'écart, hein, je crois. Donc, je ne sais pas si vous y êtes croisés. Mais est-ce qu'il y a une patte FC Nantes? Est-ce qu'il y a un truc qui vous lie quand même un petit peu?
Oui, oui, avec Abdou.
Avec votre capitaine par intérim.
Oui, avec Abdou, on aime bien justement ce... parfois sur des petits exotechniques, se chambrer par rapport à ça, mais Abdou, voilà, c'est un joueur exemplaire. C'est un joueur exemplaire. Moi, j'aime bien le chambrer, mais il sait très bien que ça reste bon enfant. C'est vraiment pas méchant. Il est très technique, hein. Il est très technique, et j'aime bien lui rappeler que c'est grâce à la Genelière qu'il est comme ça. Mais oui, ça reste un bon élément.
Et puisqu'on est revenu en France, moi j'aurais aimé savoir comment ça s'est fait ton transfert au Havre, qui t'a approché
Ouais, c'est avec les dirigeants, Mathieu, Bonnemer, Momo Elkaraz. Ils ont contacté mon agent et voilà, il y a eu des discussions et derrière on est tous tombés d'accord.
Et qu'est-ce qui t'a plu dans le projet que Mathieu t'a présenté?
Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que le vestiaire était très jeune. Le vestiaire était très jeune, donc c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs avec une énorme marge de progression. Et voilà, moi, je voulais atterrir dans ce secteur-là parce que je savais aussi que j'allais aider ces jeunes-là justement à progresser et qu'ils puissent arriver au plus haut niveau possible.
Il y a quand même plus de KV que de Genelière dans le vestiaire.
Ouais. Mais encore,
pas mal de, pas mal de jeunes. Merci beaucoup, Loïc Négo. Si messieurs, on doit poser toutes leurs questions, évidemment.
Exactement.
Je vous regarde. On va terminer, comme chaque débrief, avec le tour d'horizon des autres formations du HAC. Alors, pas de match pour les féminines, trêve internationale oblige. Reprise de la D1 Première Ligue, ce sera samedi à Dijon pour les joueuses de Maxime Di Liberto, qui sont actuellement 9e au classement.
Ouais, chez les jeunes. Leur compteur.
Voilà.
Donc, compteur victoire, c'est important aussi, parce qu'elle lutte aussi pour leur maintien de leur côté.
Chez les jeunes, il y avait peu de matchs aussi pour cause de vacances scolaires, mais on peut souligner la belle entame pour le HAC en Challenge Espoir. C'est la nouvelle compète de la FFF qui réunit les équipes jeunes U18 à U23 des clubs professionnels et une victoire 1-0 grâce à un péno de quelqu'un que vous connaissez bien, Steven Goura. Le HAC est deuxième de la poule derrière le FC Nantes, évidemment. Et puis le carton des Ciel et Marine en Coupe des Réserves, 3e journée, victoire 9-0 face à Yvetot à la Cave. Les Havrais qui sont en tête de leur poule où il reste un match à disputer entre les municipaux et Gonfreville le 20 novembre. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les jeunes.
Oui, 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 je suis beaucoup. Je regarde beaucoup ce qui se passe en dessous.
C'est important, forcément.
Je suis passé par là. Donc,
c'est ça. Et puis il y a beaucoup de jeunes coéquipiers dans le vestiaire aussi quand même.
Oui, oui, oui.
Qui s'entraînent avec vous et qui jouent avec la réserve le week-end. Donc vous êtes en prise directe avec ça.
C'est ça, c'est ça.
Et c'est gagné là-dessus que ça se termine. Là, le débrief 100% avec numéro 4 à retrouver sur tendanceouest.com, Deezer, Spotify et aussi chez nos partenaires, lecourriercauchois.fr, footnormand.fr. Merci à vous, Loïc Négo.
Merci à vous.
D'avoir été à nos côtés. On suivra évidemment la prochaine trêve internationale avec les Pays-Bas le 16 novembre et l'Allemagne à la maison en Hongrie le 19 novembre, si je ne me trompe pas sur le calendrier. Et puis d'ici là, évidemment, le HAC au Stade Océane, dimanche 17h. Préparez vos déguisements en tribune puisque c'est la fête des citrouilles. Avec des bonbons pour les enfants ce week-end. Merci beaucoup.
Les supporters, c'est surtout les 3 points qui veulent voilà. Les joueurs du HAC. Hein. Les bonbons, on verra.
Les friandises, ce sera les 3 points. Merci à tous et à dans 15 jours pour un nouveau podcast.